Bonsoir, bienvenue sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Il est 20h30 et vous écoutez Zoom Écologie avec l'équipe des radioactifs et des radioactives. Ce soir, nous parlons de l'abeille. L'abeille qui était présente il y a déjà 60 millions d'années sur Terre, s'adaptant aux changements environnementaux au fil des siècles. La chasse au miel et l'apiculture sont pratiquées par les sociétés humaines depuis au moins 4500 ans. Les relations entre hommes et abeilles sont anciennes, multiples et complexes et influencent le bon fonctionnement de l'économie, de la biodiversité et des grands équilibres écologiques. La diversité des espèces d'abeilles, leurs usages et les pratiques apicoles varient grandement entre les régions et les continents, en fonction de l'environnement, du climat, du niveau de développement économique et tout l'ensemble des pratiques, des cultures et des traditions propres à chaque société humaine. Aujourd'hui, les pratiques traditionnelles d'apiculture côtoient les méthodes modernes et intensives. Devenue sentinelle de l'environnement, l'abeille est devenue le symbole de la perte de biodiversité dans nos pays occidentaux. Des efforts de recherche sont menés sur les abeilles domestiques des pays industrialisés. Mais qu'en est-il dans les pays du Sud? Comment se pratique l'apiculture et quels sont les enjeux de ces activités dans ces pays? Quelle est l'incidence des changements environnementaux sur les abeilles et par ricochet sur les pratiques des apiculteurs et des apicueilleurs dans les pays du Sud? Ces pratiques ont-elles été modifiées face aux changements environnementaux? L'équipe de Zoom Écologie s'est penchée sur les liens entre apiculture, développement durable et économie sociale dans les pays du Sud, et en particulier sur le continent africain, avec un zoom sur le Maroc et Madagascar. Nous avons rencontré Isabelle et Monetti d'ApiFlordev, une association qui a pour vocation de contribuer au développement des zones rurales et périurbaines des pays les plus déshérités grâce à l'application de techniques modernes et pérennes d'apiculture auprès des populations pratiquant l'apiculture de cueillette ou l'apiculture traditionnelle. Nous avons également rencontré Romain Simnel, ethnologue spécialiste des rapports entre environnement et société au Maroc. Romain Simnel a étudié également les pratiques des collecteurs de miel dans le sud marocain. Enfin, nous avons rencontré Thierry Guénin, technicien forestier et coopérateur, ainsi qu'Hervé Garouel, apiculteur, qui ont monté avec l'association Quartier d'Orange un chantier apicole à Madagascar en avril et mai 2014.
Pourquoi c'est important de développer l'apiculture en Afrique ?
Alors, c'est très important de développer l'apiculture en Afrique, car c'est une belle façon de lutter contre la déforestation, puisque on a quand même pas mal de zones rurales où les gens vont aller cueillir l'essaim en haut d'un arbre. Donc pour attraper cet essaim en haut de l'arbre, pour récupérer le miel sur les galettes de cire, ils vont pour ça mettre le feu à l'arbre. Et donc ils vont détruire l'arbre pour récupérer à peine 1 kg ou 2 kg de miel. Donc pour passer de la cueillette à l'apiculture, même traditionnelle, déjà c'est une première étape et ça lutte contre la déforestation. Ensuite on a une deuxième raison, c'est l'alimentation. C'est que le miel fournit une alimentation dans les villages et en premier aux enfants, une alimentation à base de miel. Donc le miel est donc chargé en oligo-éléments et chargé en différents sucres qui sont très bons pour la croissance. Donc ça fournit une alimentation du plus petit au plus grand. Et puis ça fournit aussi une microéconomie, puisque le miel qui reste, les femmes vont aller le vendre au marché à côté. Donc ça leur amène une microéconomie dans le village. Donc on a trois raisons vraiment où ça aide les populations à se développer. Mmh. Avec cet aliment magique qu'est le miel.
D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez rappeler dans quel pays est présente l'association ApiFlordev?
Alors, ApiFlordev est née en France, d'Alain Duchazel, qui est le président fondateur, qui a passé la main l'année dernière, donc il est né il y a 11 ans. Il a travaillé très longtemps en Afrique en tant qu'expert comptable et dans un groupe international d'expertise comptable. Et quand il a pris sa retraite, il a souhaité faire quelque chose pour l'Afrique. Il avait des amis apiculteurs et il s'est dit, voilà, je trouve que l'apiculture en Afrique, ça va bien dans le sens du développement, ça va bien dans le sens des plus pauvres et des défavorisés qui peuvent très facilement avoir un métier, qui peuvent fabriquer quelque chose pour eux, pour le village et pour leur famille, pour leur entourage. Voilà. Donc les premiers projets ont été montés en Centrafrique. Ensuite, on a eu des projets au Cameroun, on a eu des projets en RDC, on en a eu au Bénin, au Togo, on en a eu au Maroc, on en a au Liban, on en a eu des projets au Vietnam. Là, on a des projets en cours au Liban, à Assia. Donc l'évaluation a été faite, le projet est monté, les fonds sont trouvés. On a un gros projet au Cameroun de nouveau, on en a en Côte d'Ivoire, on en a au Togo, on en a au Burkina qui sont en cours, donc on en a qui ont eu lieu, on a des nouveaux projets sur d'autres zones au Burkina. Voilà, donc là où on a de l'abeille, on a des demandes, on va étudier la possibilité. Donc à Vivlandef, quand on dit on va étudier la possibilité, ça veut dire qu'on reçoit une demande sur notre site web d'un groupe, d'un groupement, d'une coopérative ou d'un groupement villageois qui nous dit bah, nous on aimerait se développer en apiculture. Et donc on échange un petit peu avec eux, savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont comme idée. Et puis ensuite, on décide de mandater une équipe de deux personnes qui vont les rencontrer et qui vont évaluer leurs besoins. Évaluer les besoins, ça veut dire, ça peut être des besoins en formation, mais ça peut aussi être des besoins pour apprendre à fabriquer des ruches un petit peu plus modernes, c'est-à-dire des ruches troncs ou des ruches à cadre amovible. Donc ça peut être donc en formation de fabrication de matériel, ça peut être en fabrication de miellerie, puisqu'on peut décider aussi de construire une miellerie où les coopératives villageoises vont se retrouver pour pouvoir presser le miel ou l'extraire. Voilà, on va évaluer les besoins, ils reviennent, ils montent le dossier et là on va rechercher après des bailleurs de fonds pour financer ces projets. Voilà, que ce soit soit en temps humain de formation, soit en fabrication et en construction, soit en achat de matériel si par exemple on décide de passer en presse à miel ou en extracteur. Dans ces cas-là, on va les acheter parce que c'est du matériel inox et ça ne peut pas être fabriqué sur place. Voilà. Ce qui peut être fabriqué sur place, c'est tout ce qui est ruche, tout ce qui va être en fumoir. J'ai vu des enfumoirs fabriqués sur place avec du fer à béton. Enfin, c'est super, vraiment l'imagination et l'inventivité. Les voiles peuvent être fabriquées sur place, bien sûr. Il y a des couturières, il y a des moustiquaires, il y a des choses comme ça. On peut tout à fait venir picoler sur place. Voilà, un certain nombre de choses peuvent être faites sur place. De toute façon, on prône ça.
Ufa ufa amor amor etana na malaina plus fae fampakia nu tanet lava mande fasaina ufa ufa amor amor etana na malaina plus fae fampakia nu tanet lava mande fasaina Lefi ti chafu arambefi Sankti karola Skumba kumba nden raeto Nampana Tadid sisa namzan Tan lamba lantan tsy maintsy navelany fiadanana ariva moropatana tanaka visy havanana velorano mpihavanana soloana fitetavana miazakazaka ny ory mila loha ranombola mapamanga ny lamba landiana mapamanga ny lamba landiana mapamanga ny lamba landiana mapamange mapamanga ny lamba landiana mapamanga ny lamba landiana mapamanga ny lamba landiana mapamange Ufa mura mura e tanana malaina plus fa e fampaka niu tanet lava mande fasaina che 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 rivo malefa ptsu rivotra ory fotondratra manana ny teody aloka lofany lasa rotsorotsy mba li sisa feo milanto mitondrakany ity zanaka ty voaterinaka volontany mampamangy any amin'ny ramari any ndramanonaka ny dite mafana mikitony vomanga le mery aminala eny ambony ravitsara mampamanga ny lamba landiana mampamanga ny lamba landiana mampamanga ny lamba landiana mampamange mampamanga ny lamba landiana mampamanga ny lamba landiana mapamange ny lamba landiana mapamange
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Nous venons d'écouter Lambaland du groupe malgache Saafa. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, vous êtes sur Zoom Écologie. Et ce soir, nous parlons de l'abeille à Madagascar et au Maroc. Nous recevons pour cela Romain Simnel, ethnologue, Thierry Guénin, coopérateur et membre de l'association Quartier d'Orange, et Hervé Garouel, apiculteur.
Ça dépend maintenant vraiment du développement agricole et économique de chaque région au Maroc. Il y a des régions agricoles très développées qui, elles, vont être uniquement avec des ruches, entre guillemets, modernes. Et d'autres régions, par exemple des régions du Haut Atlas, du Sous, ou même plus au sud, parce que finalement la grande richesse apicole du Maroc, elle est au sud, dans des climats très très arides, où il y a des cactus, des euphorbes qui poussent, et qui donne, là pour le coup, des miels extrêmement valorisés, comme par exemple le forbe balsamique, le forbe cactoïde. Il y a vraiment une richesse en termes de forbes qui donne des miels extrêmement bons au niveau des vertus thérapeutiques, etc. qui sont d'ailleurs très chers hein, quand ils sont purs, enfin quand ils vendent purs. Hein, c'est 350 dirhams, par exemple aujourd'hui c'est 350 dirhams le litre, hein, donc c'est-à-dire 35 euros. C'est pas rien, c'est pas donné, quoi, on va dire, surtout pour des pays comme ça. Mais les gens mettent l'argent, les consommateurs mettent l'argent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de religieux derrière le miel. Le miel, c'est la nourriture du prophète. Ils disent que si les abeilles continuent à faire du miel aujourd'hui, c'est parce que les hommes leur ont pas dit que le prophète était mort. Donc, ça veut dire qu'il y a, le miel a une vertu religieuse et que donc les Marocains différencient véritablement le miel pur qui vient d'un petit agriculteur qui connaisse de la montagne, etc. et le miel qu'on vend pendant le ramadan, par exemple. Là, on est au moment du ramadan. Il y a un écoulement de stock de miel absolument incroyable, mais la plupart, 90-95%, c'est du miel de table, quoi. C'est du miel qui vient d'Espagne ou marocain, c'est du miel de sucre, quoi. Donc, moi, je dirais que le problème que j'ai vu, en tout cas dans des régions, parce que moi, je travaille plutôt dans des régions de montagne, des régions assez isolées, des régions pauvres, où il y a une apiculture traditionnelle qui est encore très vivace. Et le grand problème, c'est cette rencontre en fait, entre ces deux formes d'apiculture qui partent sur des philosophies très différentes et qui entraînent une multitude de conséquences, comme par exemple l'hybridisme des races d'abeilles. Il faut savoir par exemple qu'au Maroc, on a trois sortes d'abeilles. Hein, on a l'abeille noire qui est de l'Atlas, on a une abeille qui est plus ou moins similaire à l'abeille italienne dans le Rif, et on a une abeille jaune saharienne dans le sud, qui remonte parfois jusqu'à Agadir. Quand on a des colonies de ruches type d'Adam qui descendent par camion dans l'objectif d'aller prendre un peu de cette saveur du sud, un peu de cette saveur de cactus, etc., pour donner une plus-value à leur miel, ben c'est 600, 800, 1000, enfin bon, bref, de ruches qui viennent avec des colonies d'abeilles noires ou d'abeilles rifaines, voire d'abeilles européennes, dans ces régions-là. Et là, il y a un hybridisme qui se passe. Et on ne maîtrise pas du tout, c'est pas du tout. On est peut-être en train d'assister à la disparition d'une race d'abeilles, l'abeille jaune. En tout cas, on voit qu'elle est en train de redescendre vers le sud. Et on aperçoit des types d'abeilles qui sont complètement différentes. Donc, voilà, moi je dirais que vraiment le gros problème aujourd'hui, c'est d'arriver à voir comment ces deux apicultures peuvent se combiner, finalement, arriver à trouver un juste milieu. Ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut imaginer que ces populations rurales, qui elles font un travail. Ils ne cherchent pas la quantité, hein. Ce qu'ils cherchent, c'est avant tout la relation à l'abeille, quoi, finalement, et avoir de quoi consommer familialement. Ce n'est pas un grand commerce, le miel dans le sud du Maroc. Hein. C'est au départ un commerce de proximité. Et donc voilà, après, il y a eu énormément d'initiatives. À partir de la rencontre entre ces deux types d'apiculture, il y a des formes, on voit des ruches hybrides, parfois il y a des types qui inventent même des types de ruches. Entre la ruche d'Adam et la ruche traditionnelle, parce que des ruches traditionnelles, il y en a plusieurs sortes. Dans le sud, c'est cette fameuse ruche palmier. Mais on a aussi des ruches dragonniers, des ruches qui sont faites dans les trous des dragonniers. Le dragonnier, c'est un arbre assez ancien du sud du Maroc et des Canaries.
Il y en a en plâtre.
Il y a toutes sortes, parce qu'ils essayent, en fait, d'innover, de trouver. Alors, je dirais que le truc, le point positif que j'ai vu, c'est que chez des apiculteurs qui sont devenus des apiculteurs, on va dire, industriels, et qui cherchent à vendre, vivre du miel, j'ai essayé de voir un peu comment leurs enfants étaient initiés, comment est-ce que la transmission, comment ça se passait, etc. On voit que systématiquement, même des apiculteurs qui travaillent avec des ruches d'Adam ou Langström mettent leurs fils sur des ruches traditionnelles pendant 4 ou 5 ans. Et presque, utilise la ruche traditionnelle dans certaines étapes comme l'essaimage. Parce que, voilà, donc il n'y a pas non plus une exclusion. On ne peut pas dire que c'est apiculture industrielle contre apiculture traditionnelle. Il y a des hybridismes qui se font, des initiatives. Ouais. Différents types de ruches.
Ça me fait penser du coup à ce qui se passe à Madagascar. Donc, Thierry et Hervé, vous connaissez bien Madagascar et l'apiculture là-bas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des types d'apiculture justement qui existent à Madagascar et notamment les rapports entre l'apiculture traditionnelle et puis les objectifs d'apiculture du gouvernement qui se rapprochent plutôt d'une apiculture industrielle et intensive.
Donc, par rapport à ce que tu demandes sur cette évolution à Madagascar, tu parles d'une apiculture traditionnelle. Il faut revenir dans les années 30. Madagascar était un des premiers pays producteurs de miel au monde, si ce n'est le troisième pays au monde, rien qu'en se basant sur la cueillette. Et sur, donc sur la cueillette et sur les ruches traditionnelles qui est en faible proportion. Donc c'est hallucinant de savoir que Madagascar, avec son patrimoine forestier dans les années 30, était un des trois premiers pays exportateurs de miel. Voilà. On a vu donc le déclin arriver sur Madagascar, puisque la déforestation a pris le pas. Qui prend le pas, qui annonce le déclin de la production mellifère sur Madagascar. Donc les cueilleurs se sont retrouvés dans une situation désespérée où ils n'avaient plus la possibilité de faire cette cueillette. Et donc l'alternative qui arrivait dans les années 50, c'est passer sur des ruches traditionnelles et après d'évoluer dans les années 70 sur des ruches modernes. Et le déclin, c'est quand même amorcé de manière consécutive. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2014, nous voyons que le déclin est marqué, la déforestation est totale, plus de 80% des forêts originelles ont disparu, parce que tout simplement, sur deux raisons. Un, la déforestation qui inclut une notion élémentaire de la culture malgache, puisque la culture malgache veut que ce qu'on brûle sur une surface agricole, sur une surface forestière, nous appartient. Donc c'est traditionnel, il faut prendre en compte c'est la culture du tavi. Et au-delà de ça, toujours ce repère de la cueillette et cette non-constance de l'utilisation de la ruche traditionnelle. On revient, on se rassure parce qu'on connaît. La ruche traditionnelle est quand même un élément artificiel pour eux. Et la ruche moderne encore plus. Et comme il n'y a pas eu accompagnement sur la formation ruche moderne, ils peuvent recevoir des milliers de ruches dans les années 80-90 et ne pas les conserver, ne pas les entretenir, et il arrive à un stade où ça devient du bois de chauffe et on revient systématiquement à la cueillette. Voilà la problématique malgache. Et au-delà de ça, le varroa est arrivé. Au-delà de ces cultures liées à la déforestation et à la cueillette, le varroa a quasiment monopolisé plus de 70% du territoire malgache. Il ne reste plus que le nord de Madagascar qui est exempt du varroa.
Est-ce qu'on peut rappeler, juste pour les auditeurs, qu'est-ce que le varroa et pourquoi c'est si grave pour les abeilles en France et puis dans d'autres pays également?
Le varroa, qui est arrivé il y a une trentaine d'années, est un parasite de l'abeille et du couvain d'abeille. C'est un petit vampire qui se nourrit des larves et qui inocule différents virus et bactéries. Quelquefois c'est léger. Alors normalement un parasite a intérêt à ce que son hôte le supporte, donc il n'a pas intérêt à le tuer. Or là il s'avère qu'il y a un déséquilibre qui provoque les mortalités à partir d'une pression trop importante de varroa. Donc les seuls moyens qu'on a à notre disposition, c'est d'introduire des traitements, alors que ce soit des molécules naturelles à la base qui ont été copiées. Et ou des huiles essentielles, on en est encore à faire des tests et à ne pas établir de protocole avec les huiles essentielles parce que ça reste marginal et que ça n'intéresse pas les laboratoires. Voilà. Donc on est un peu désemparé et puis il y a certaines races d'abeilles qui sont plus sensibles au varroa, il y a certaines régions qui sont plus chargées et c'est pour ça que au niveau sanitaire, le maillage des petits apiculteurs, on a intérêt à ce qu'ils soient le mieux formés possible pour éviter de conserver des colonies très parasitées qui vont en répandre alentour. Et ça, c'est pas considéré comme de la maladie MRC, réputée contagieuse.
Donc tu parles de la formation des apiculteurs, je voulais juste revenir sur les deux pays, le Maroc et Madagascar, qui sont deux pays très différents. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces apiculteurs? Qui sont-ils? Est-ce que c'est des apiculteurs ou des apicueilleurs? Comment ils sont amenés à faire de l'apiculture? Est-ce qu'ils sont aussi agriculteurs ou est-ce qu'ils ont une autre activité à côté? Déjà pour le Maroc, qui sont les apiculteurs au Maroc?
À la ferme, il y avait une production de 20 tonnes d'olives, il y avait des vaches, j'ai vu un petit veau qui venait de naître. Il y avait des moutons, et ils avaient des abeilles, mais alors c'était vraiment faisait 5-10 kilos de miel, quoi. C'était avec 5 paniers. C'est vraiment juste. C'est parce qu'elles vivent encore que.
Ouais, moi je suis dans le même sens. La plupart des agriculteurs que je connais dans le sud du Maroc sont des paysans d'abord, qui vivent dans des oasis ou dans la montagne. Et ce qui est hyper important, c'est que l'apiculture, l'abeille est intégrée dans le territoire. D'accord ? C'est-à-dire que l'apiculteur va jouer sur les différents espaces de son territoire, hein, des falaises, les forêts, les champs, etc. Il va jouer sur cette diversité des espaces pour intégrer l'abeille dans son territoire. Parce que chaque type d'espace correspond à une action en fait, sur le bûcher. On va aller chercher les essaims sauvages dans la falaise, on va produire du miel plutôt avec la forêt, on va acclimater l'essaim dans le champ, etc. etc. Donc il y a c'est véritablement inscrit à l'intérieur du territoire agricole. Alors après, depuis les années 70, il y a une professionnalisation qui s'est installée, mais qui s'est installée sur le modèle français. Hein. Il n'y a pas eu...
C'est-à-dire qu'il y a un investisseur qui propose d'acheter tant de caisses.
Exactement.
Et qui se dit, bon, ça va me rapporter combien ?
Ouais, voilà. C'est une forme de métayage, quoi, quelque part. C'est une forme
c'est
de
comme les gestionnaires de terre pour la betterave dans le Maroc.
Alors ça a créé plein de petits emplois, les gardiens de ruchers, etc., etc. Il y en a plein au Maroc, des petits bergers qu'on va employer justement. On va lui dire, bah, tu restes ici un mois, comme ça tu vas garder, etc. Bon, voilà. Mais il n'y a pas eu si. Le côté positif, c'est le fait que ça a créé quand même de l'emploi. Le côté négatif, c'est que cette démarche, elle ne s'est pas inspirée des savoirs locaux. Et donc on ne s'est pas inspiré du savoir local. Or, justement, pour revenir à un problème de la varroa, le savoir local a aussi des solutions, dispose de solutions qui ne sont pas forcément des solutions globales, mais dispose de solutions quand on voit les apiculteurs de temps en temps prendre du thym ou de l'armoise, le mettre dans l'enfumoir et enfumer les abeilles en cas de varroa. Ils savent exactement quelles sont les... Parce que les abeilles, elles se défendent elles-mêmes contre la varroa. Les abeilles savent quelles sont les substances végétales qui leur permettent de lutter contre la varroa. Et les apiculteurs, en l'occurrence les apiculteurs qui connaissent leur territoire, qui sont intégrés dans leur territoire, savent exactement quel type d'espèces végétales les abeilles tirent, justement, des substances pour lutter contre la varroa. Donc c'est tout le risque au Maroc, c'est cette fracture au niveau du savoir entre une professionnalisation de l'apiculture qui ne s'appuie pas sur le savoir des paysans.
Bah alors pour Madagascar, qui sont les apiculteurs à Madagascar ?
Germain, il revient, il alimente la...
Donc qui est
l'épicerie. Germain, c'est l'épicier. Enfin, c'est le mari de l'épicière. Elle arrive avec sa moto et il alimente. Il alimente, mais il a pas mal de temps de libre. Alors il vend de l'alcool, des clopes, des beignets, de tout, du charbon de bois, des trucs pour allumer l'enfumoir. Des petites âmes de résineux. Là. Et Germain, bah, il est cool parce que je pense qu'il doit gagner sa vie, il doit bien s'occuper de ses enfants, ils ont du temps libre, et c'est peut-être parmi ceux qui galèrent moins. Quoi. Et bah, il a le temps de s'occuper des ruches. C'est-à-dire, s'il attrape un essaim, si on l'appelle, il est débrouillard, et il va les choper, et il les met dans une caisse, les caisses de transport dans lesquelles on mettait de la paille pour transporter les trucs autrefois. Et donc il met un truc qui n'est pas forcément à la taille, mais qui ressemble, c'est quand même vaguement le modèle de le volume de la varée, d'un élément de varée. Et puis ben, il laisse faire, et puis on a été voir, et puis on a vu que sur cet essaim sauvage, il y avait du varroa. Il était en ruche depuis un moment, il avait construit, mais l'autre était déjà parti. Et quelques jours après, il était parti. Ce qui fait que le gros problème de ces apiculteurs qui, de fortune qui attrapaient des essaims beaucoup autrefois, j'ai eu l'info par Jérôme tout à l'heure, qui a été une fois à Madagascar et qui est en exploitation varée en France, c'est qu'il y a de moins en moins de colonies sauvages.
Ouais.
Il y a une chute due à plein de facteurs et qui va avec l'effondrement du cheptel national.
Ouais.
Donc Germain, c'est un épicier qui fait aussi un petit peu d'apiculture avec une ou deux ruches sur son balcon, comme on a vu. Et puis
sinon, on a des apiculteurs qui ont plus ou moins des talents et des connaissances scientifiques et qui vont investir dans l'abeille. Et puis, en général, ils ont une deuxième activité. On en connaît un qui est prof, Toul, et l'autre qui vend des, qui est pépiniériste, Age. Qui a un lémurien en cage, juste pour les visiteurs, je pense. Et ceux-là, ils font l'apiculture comme ils peuvent, c'est-à-dire en dehors de notre guide des bonnes pratiques.
Alors, le souci, c'est la pérennité, l'entretien de ces ruches, puisqu'en fin de compte, sur des zones de grosse production, ça se passe très très bien, puisqu'il y a un accompagnement de l'État, d'experts, donc d'apiculteurs experts qui viennent. D'accord. Et qui accompagnent. Et des ONG qui sont là pour pérenniser l'entretien de ces ruches. Ouais. Tout se passe bien sur les grosses zones de production. Le problème n'est pas dans la production de miel. Le problème, c'est la lutte contre le varroa.
D'accord.
Parce que la problématique, elle est financière. À court terme, qu'est-ce qui fonctionne ? C'est une lutte rapide avec le chimique, le médicament. Donc l'acide oxalique, la pivar. Donc les moyens financiers ne sont pas là. Ça veut dire que Madagascar est le premier pays le plus pauvre au monde. Ce n'est pas Haïti, c'est Madagascar. Donc aujourd'hui, le pouvoir d'achat ne permet pas de lutter de manière efficace contre le varroa. Donc hormis quelques ONG qui balancent des milliers de bandes ou des médicaments de manière ponctuelle, il n'y a pas de suivi. Donc nous arrivons à un seuil où l'État malgache souhaite augmenter la production. Mais c'est complètement contradictoire. Si on n'établit pas un système de veille sanitaire, un principe d'observation des ruchers, d'échange d'informations sur les cémages, de connaissance du voisin qui a ses ruches, nous allons droit dans un mur. Donc au-delà du soin, il y a aussi une veille sanitaire à mettre en place et un accompagnement pérenne de ceux qui utilisent des ruches modernes. Donc c'est le travail que doit mettre en place l'État, et l'État a pris conscience récemment de ses priorités. Donc en l'occurrence, nous, on peut intervenir dans ce sens. Au-delà de vouloir augmenter la production, il faut d'abord la stabiliser. Parce que des retours en arrière fréquents vers zéro production, disparition d'abeilles, puisque le varroa est 90% de la population des abeilles malgaches est décimée. On ne le dit pas assez.
Alors justement, une question par exemple. Non, c'est, tu parles toujours de l'État. Est-ce que véritablement le rôle de l'État, quand on connaît, la particularité du métier d'apiculteur, qui est un métier quand même assez individuel, où il y a énormément d'initiatives individuelles, et tant mieux. Je veux dire, est-ce que, parce que la situation au Maroc est complètement différente, l'État n'arrive pas du tout finalement à savoir où on est l'apiculture, c'est quelque chose, les apiculteurs traditionnels sont encore restés très cloisonnés au Maroc, alors que là on a l'impression que l'État, c'est presque devenu une spécialité locale, c'est presque un patrimoine national finalement.
Alors historiquement, la production du miel était importante, comme je disais, dans les années 30, et comme Enora l'a dit devant le ministère de l'élevage à Madagascar, historiquement la production de miel était un des fers de lance de l'exportation malgache. Ce n'est pas un oubli, c'est une mémoire acquise et intégrée. Tous les gouvernements ont essayé de développer la production de miel, mais ont toujours échoué parce qu'ils ont pris le problème à l'envers. Déjà, le problème qui est à l'envers, c'est vouloir donner des moyens de production, mais ne pas donner des moyens de soins, de lutte contre le parasite. De ne pas, comme le dit Hervé, mettre en place des veilles sanitaires. Ne pas travailler d'abord sur les bonnes pratiques. Parce que rien que les bonnes pratiques, on peut diminuer le taux d'infestation, le taux de parasitage. Il n'y a pas que le varroa, il y a d'autres parasites naturels, comme on retrouve en France. Donc si on ne commence pas par une pédagogie de bonnes pratiques, si on ne commence pas dans une pédagogie de lutte locale, avec les pratiques locales, comme on vient l'entendre sur le Maroc, où l'apiculteur, en fonction de sa région, de son lieu, a ses pratiques à lui qui sont efficaces. Donc si on ne met pas en valeur les bonnes pratiques locales, on va droit dans un mur. Donc la facilité va plutôt dans... On offre des milliers de ruches d'Adam, langstreux, et on pense que la production va suivre. Et on s'aperçoit que 3 ans après, ces ruches deviennent du bois de chauffe.
Bien sûr.
Voilà.
Ce qu'il faut dire, c'est que... alors là, en avril-mai, il y a eu toute une flopée de nouveaux ministres qui ont été renouvelées. Donc le ministère de l'élevage maintenant est sensible, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau à Madagascar, que le ministère de l'élevage, dont dépend l'apiculture, mais l'apiculture finalement dépend aussi du ministère des forêts, de l'environnement, de l'économie, etc., est sensible maintenant, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau.
Parce qu'ils ont été sensibles par un mode d'approche qui est dans le sens de l'efficacité. Nous avons deux principes d'ONG, donc de structures humanitaires étrangères, qui proposent deux modes d'action totalement différents. La première ONG arrive avec du matériel, des containers, de ruches, et apporte ce qu'on appelle la connaissance totale. On va tout vous apprendre et vous allez voir ce qu'on sait faire. Trois ans plus tard, les ruches qui ont été offertes, ou les médicaments ont été utilisés, mais c'est un échec total.
C'est une démarche paternaliste, quoi.
Tout à fait. Après, il y a le deuxième type qui est plus proche de ce qu'on appelle la transversalité. Nous venons, nous avons un savoir-faire, mais vous en avez un aussi. Nous allons apprendre chacun de notre côté. Nous allons d'abord faire un diagnostic, et votre pratique locale est une richesse pour nous. Parce que nous aussi, on pourra utiliser vos pratiques locales chez nous, en Europe. Donc on arrive à un échange. Au-delà de ça, il y a un deuxième critère qui est à prendre en compte pour la réussite. C'est nous insérons les locaux dans notre ONG. Nous sommes étrangers, mais nous allons trouver des homologues locaux pour pouvoir travailler ensemble. Nous prenons un principe d'équité sur les compétences. Nous savons très bien qu'il y a des ingénieurs agronomes, nous savons très bien qu'il y a des vétérinaires. Ils ont les mêmes diplômes, ils ont les mêmes compétences, donc nous allons travailler ensemble. Donc nous respectons les compétences locales et nous travaillons en synergie. Et ce type de ONG et Quartier d'Orange travaille sur ce principe d'équité et d'échange de compétences. Nous allons sur un principe de réussite et de modestie. Il faut toujours commencer petit.
Tout à fait. Non, mais en fait, c'est dingue parce que je m'aperçois que la situation est vraiment très différente entre le Maroc et Madagascar, parce que en gros, au Maroc, il y a très très peu d'ONG qui travaillent sur la question de l'apiculture. L'État n'est pas du tout sensibilisé sur cette question. Il va commencer à l'être prochainement, parce que depuis, j'allais dire, 3-4 ans, on lance la politique des produits de terroir au Maroc. Et donc, du coup, c'est par le produit final que l'État va s'intéresser à l'apiculture. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il va vraiment s'intéresser d'abord... Quand on voit les bêtises qui ont été faites, par exemple, sur l'huile d'argan, hein, ce mythe, il y a 10 ans, l'huile d'argan, ça y est, toutes les femmes vont retrouver une jeunesse absolument incroyable et tout. Bon, ça a été une vraie catastrophe. Ils ont monté des coopératives, ça a exploité les femmes. Les femmes gagnent 800 dirhams par mois pour travailler à l'usine, j'allais dire, parce que ce qui était avant une chaîne opératoire très, très variée et très solidaire, maintenant la femme se retrouve toute seule à faire une activité, c'est-à-dire casser la noix. Enfin bon, je vais pas m'étendre sur... Mais c'est un exemple au Maroc très important, l'huile d'argan, qui montre le détournement finalement du développement. Ça a vraiment abouti à des catastrophes. Et on a peur pour le miel qu'il y ait le même genre de problème au Maroc, puisque les ONG sont, hélas, totalement absentes sur ce problème. Alors, il y a eu une initiative qui est assez intéressante, c'est qu'on a fait venir deux apiculteurs, un du Sahara, qui s'appelle Salah, et un donc, de la Bretagne, Mohamed Bounit. Et ces deux apiculteurs, en fait, sont venus à Montpellier en 2012. Il y avait une grande conférence autour de l'environnement. Et en fait, on avait fait venir des apiculteurs du monde entier, des apiculteurs traditionnels. Hein. Donc, il y en avait un qui venait du Mozambique, il y en avait deux qui venaient d'Inde, un du Cameroun, un du Brésil, un indien d'Amazonie, etc. Bon, on était à peu près un de Jakarta. Enfin, on était une quinzaine d'apiculteurs. Et on s'est mis ensemble autour d'une table ronde et on a commencé à parler du Varroa, de pas mal de problèmes, etc. Et puis alors que ces gens-là ne parlaient pas du tout la même langue, hein, bien évidemment, ils prenaient une craie, ils dessinaient des choses au tableau, etc. À tel point qu'au bout d'un moment, les quelques ethnologues qui étaient là, qui avaient organisé le truc, on a pu se retirer, finalement, discrètement. Et on voyait à quel point ces apiculteurs du monde entier, dont les deux Marocains, discutaient, etc., etc. Absolument incroyable. Et ça a été décidé, et là ça n'a pas été mis en place, une opération qui s'appelle Sentinelle, d'utiliser ces apiculteurs, justement, donc ça renvoie à ce que tu disais à propos de Madagascar, d'utiliser ces apiculteurs comme témoins, en fait, comme sentinelles, Voilà. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que on a une carte du monde, hein, et on donne un espèce de petit outil, je ne suis pas trop dans la technologie moi, mais bon, mais un petit outil qui leur permet en fait de glisser un mot, un SMS, avec la coordonnée précise. Par exemple, le Mozambicain dit voilà, à 9h du matin, 17 février, je remarque que l'essaimage a été retardé de je ne sais pas combien de temps, par. Voilà, toutes ces observations-là. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir donc, un planisphère dans le monde entier avec tous ces apiculteurs traditionnels qui, justement, placent ces informations. Et on pourrait, à ce moment-là, avoir un aperçu, finalement, depuis leur regard, de l'évolution du peuplement des abeilles dans le monde.
Sachant que certains problèmes qui affectent les abeilles dans un pays. Se déplacent.
Exactement.
Les problèmes se déplacent, ouais. Et se répercutent de façon différente d'un pays à l'autre, mais il y a finalement des problèmes communs.
Ouais. Donc on pourrait suivre cette dynamique. Et en tout cas, voilà, les deux apiculteurs marocains. Donc là, on n'est pas du tout dans des histoires d'ONG et tout, parce que, encore une fois, le Maroc a été complètement. C'est terrain incognita, j'allais dire, au niveau du développement de l'apiculture.
Ouais. J'aimerais bien, du coup, parler peut-être de la filière du miel. Parce que finalement, ce qu'on dit sur le Maroc, que le gouvernement s'intéresse au développement de l'apiculture parce que ça a peut-être une valeur économique certaine dans le développement d'un patrimoine culinaire, etc.
Et d'un tourisme vert.
À Madagascar, finalement, il y a aussi cette volonté du gouvernement de produire du miel en grande quantité. Oui. Plusieurs tonnes par an, alors même que 80% du cheptel d'abeilles a été décimé. Donc il y a cette difficulté-là en plus qui vient se rajouter.
Oui, il y a ce vieux sentiment de réussite qui date des années 30 où la production de miel malgache était importante. Ce fantasme, ce vieux rêve de reconquête sur une nouvelle production à l'équivalent. Ça, c'est ce qu'on ressent chez le gouvernement malgache et plus particulièrement le ministère de l'élevage. Au-delà de ça, il y a une réelle demande aussi des grossistes étrangers qui souhaitent acheter du miel malgache pour des raisons évidentes de qualité. Au niveau de la production mellifère, des miels qui sont quand même originaux. Le niaouli, le miel de baobab, le miel d'eucalyptus qui sont référencés comme des miels de très haute qualité. Alors, par contre, ce sont bien des miels de très haute qualité à la base. Par contre, le process de cueillette et de stockage en miellerie n'est pas à la hauteur. Les normes internationales ne sont pas au rendez-vous pour des raisons évidentes de non-respect des règles d'hygiène, des modes de transport, des modes d'extraction. Rien n'est au rendez-vous au niveau des normes de qualité et de production. Alors, par contre, effectivement, il y a une réelle volonté des ONG pour aider les apiculteurs malgaches, les cueilleurs, à atteindre ce niveau de qualité. Malheureusement, il n'y a qu'une seule région qui atteint ces objectifs. C'est donc le sud-est de la région de Manakar, où effectivement il y a des mielleries de type industriel avec des modes d'extraction très professionnels qui le permettent. Mais on sait qu'il y a trois autres régions qui sont aussi productives et qui ne sont pas privilégiées dans ces aides et par le gouvernement malgache. Parce que le gouvernement malgache, d'abord, donne des ruches, ne forme pas forcément sur toute la totalité du territoire et n'ont pas une stratégie cohérente sur toutes les régions.
Vous pouvez nous en dire un mot
Alors, oui, l'intérêt de la filière est équitable, c'est bien sûr le miel est vendu au litre, ça revient à un peu moins d'un euro le kilo. À la revente, c'est multiplié par 5, donc l'idée, ça serait de leur acheter au moins 3 euros le kilo pour pouvoir le revendre et puis donc les intégrer à cette filière équitable où je crois qu'ils touchent. Il touche une prime au bout d'un certain temps.
L'apiculteur vend son miel à des prix dérisoires et puis le miel qui est exporté et qui est revendu sur les marchés à Madagascar est un miel parfois frelaté. Est-ce qu'on a ce problème-là au Maroc, justement, de miel qui est transformé, qui est coupé avec du sucre ou...
Énormément. Énormément, et spécialement en ce moment, là, pendant le ramadan. En fait, les gros producteurs de ce miel-là, c'est les Espagnols. D'ailleurs, on appelle ça le miel d'Espagne en règle générale, même s'il est produit au Maroc. Pour les Marocains, c'est le miel d'Espagne. Et alors qu'il y a du bon miel aussi en Espagne, mais bon, en l'occurrence, c'est comme ça qu'il se représente ce miel-là, et qui est un miel qui est donc coupé au sucre, et donc ça alimente notamment toutes les pâtisseries, shbekia, etc. Donc toutes les pâtisseries du ramadan sont faites avec ce miel-là. Bon, il y a une consommation, mais je ne sais pas, moi, ça doit être multiplié par 1000 la consommation du miel. Mais c'est du miel, c'est pas du miel.
C'est du sirop glucose.
C'est du, voilà. Alors après, il y a différents types d'arnaques de miel, on va dire. Ça, on le voit sur les bords des routes, notamment pour aller à Agadir ou Essaouira, il y a des types qui vendent du miel au bord. Alors parfois, on peut tomber sur un vendeur honnête. Après, on peut vendre toutes sortes de miel mélangés. Après, au Maroc, il y a une troisième catégorie de faux miel. Il faut imaginer que pour les apiculteurs de la montagne, les apiculteurs qui donnent du sucre aux abeilles, pour eux, pour les puristes, j'allais dire, parce que c'est vraiment des puristes à ce niveau-là, pour eux, c'est pas du miel. Vous voyez jusqu'où ils vont, quoi. C'est-à-dire, pour les apiculteurs du sud, donner du miel aux abeilles, c'est haram. C'est-à-dire, c'est interdit, quoi. Ça, c'est une pratique transgressive, en fait. Et heureusement, l'avantage du sud du Maroc, c'est qu'ils ont, dans les bonnes années, une disposition de pollen sur toute l'année. Il n'y a que 3 semaines de soudure, quoi. Donc c'est plus facile pour eux, j'allais dire. Par contre, bien évidemment, quand il y a des grosses colonies qui arrivent avec les ruches d'Adam, etc. Et bon, les ruches d'Adam, il faut voir le volume que c'est. Justement, je suis en train de dire ça, je suis très... ça fait énormément plaisir. Mais le volume donc, des ruches d'Adam est énorme. Et à ce moment-là, oui, il faut leur donner, il faut les nourrir en sucre. Et pour eux, pour les apiculteurs traditionnels, c'est aussi une des raisons de l'invasion du varroa. C'est leur savoir qui dit ça.
C'est intimement lié, je pense. La volonté de surproduire apporte bien sûr...
de qualité, vraiment. Bon. Donc on a ces trois situations, j'allais dire. Le pur miel, mais qui... Pour le coup, il faut vraiment connaître un paysan, un apiculteur, pouvoir en avoir. Le miel fait de manière un peu industrielle, etc. Et puis alors le faux miel qui lui envahit le marché, notamment pendant le ramadan.
Et donc le pur miel, comme tu l'appelles,
Nous on l'a fait analyser.
Il est vendu justement à des prix assez chers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'utilisation de ce miel-là? J'imagine que c'est utilisé en très petite quantité, certainement pour des raisons thérapeutiques ou autres.
En fait, on a découvert que finalement, le marché, malgré tout, même s'il est intime, il est quand même assez important. Parce que les gens des villes, à Casablanca, à Rabat, même voire à Tanger, en consomment. Il y a des revendeurs, jusqu'à Tanger, de ce type de miel. Donc c'est quand même marrant de voir à Tanger des revendeurs de miel de 2000 km plus au sud, parce que c'est vraiment ça. Et donc oui, il y a une grande, grande valorisation de certains types de miel, dont... le miel, ce qu'on appelle tikiout en berbère, darmous en arabe, c'est-à-dire l'euphorbe et quinus, qui est un espèce de petit cactus comme ça, en forme de banane avec des grands piquants. Et lui, il donne son nectar l'été. Il faut savoir que dans ces régions-là, il fait 48 degrés, donc l'abeille jaune saharienne est adaptée. Tout ça, ça rentre dans le mythe de ce miel. Je veux dire, c'est ça qui valorise aussi le prix, tout ça. Et donc là, c'est un miel qui est utilisé énormément pour les problèmes respiratoires. Et on a un autre miel qui est l'euphorbe balsamique, qui lui est utilisé beaucoup plus pour les problèmes de digestion, etc. Ensuite, on a le miel de thym de la région d'Agadir, de la région des Idaoutanan, plus particulièrement. Mais bon, les apiculteurs des autres régions disent que c'est pas du miel de thym, ça peut pas être du miel de thym, parce que le thym est une substance qui endort les abeilles, la reine. Voilà à peu près les... Mais je veux dire, on a fait des analyses, on a voulu voir, parce que c'est vrai qu'on voit cette mode ici à Paris du miel de Manuka. D'accord, très bien. On a pris le miel de Manuka en référence. On a pris le miel de Manuka, ça s'est passé à Montpellier, hein, dans une faculté de pharmacie, et ils ont fait des analyses du miel que nos apiculteurs leur ont donné. Donc le miel, les différents miels de forme. Il y a un miel de forme, en l'occurrence c'est le fort balsamique, mais qui explose complètement les analyses. Complètement. Genre il y a 10 fois plus de, je ne sais plus quoi, de propriétés en fait thérapeutiques que le miel de Manuka ou même que le miel du Yémen qui lui est un grand mythe. Le miel de jujubier du Yémen qui est censé se vendre, je ne sais plus, 100 € le litre comme ça sur internet. Donc en fait, on s'est rendu compte, on a été très étonnés, que l'analyse confirmait finalement les usages thérapeutiques au Maroc, et qu'il y avait bien des vertus à la fois donc antiseptiques et antibiotiques sur ces types de miel.
Et au Maroc, est-ce qu'il y a justement des laboratoires d'analyse du miel ? Parce que justement, à Madagascar, il y en avait un qui a disparu, qui a fermé.
C'est le même principe. On n'a pas donné la priorité à une analyse des miels, et puis une vision plutôt à court terme, et même pas du tout économique, puisque les analyses se font quand même. Mais le miel part en Europe sur des laboratoires européens qui facturent à des prix exorbitants le coût des analyses. Donc il n'y a pas cette volonté de pérenniser et de diminuer les coûts à moyen et long terme.
Ça c'est très très important et on a le problème en ce moment parce que heureusement ça s'est très bien passé parce que toutes ces analyses là ont été faites dans le cadre d'un partenariat avec la faculté marocaine et donc ça s'est fait par une stagiaire en pharmacie. Et donc là il y a une visibilité totale, etc. Mais le problème se pose que ensuite certains laboratoires marocains ont exigé d'avoir bien évidemment les résultats, mais qui est la priorité dans cette histoire? Est-ce que ce sont les laboratoires marocains ou ce sont les apiculteurs eux-mêmes? Finalement la source du savoir, ce sont les apiculteurs. Donc si jamais les analyses tombent dans un laboratoire marocain qui décide de faire exactement comme le commerce de l'huile d'argan et de faire des coopératives et de lancer un produit, voire de vendre ces formules-là à des firmes pharmaceutiques, etc., etc. Au final, c'est l'apiculteur lui-même qui se fait voler. C'est pas le Maroc. Et donc, voilà, là, j'allais dire, il y aurait une réflexion à faire sur une charte sur les savoirs locaux. Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est les savoirs locaux. Et voilà, donc là, il y a une grosse réflexion à faire là-dessus. Pouvoir protéger ces savoirs locaux qui sont en amont de ces produits de terroir ou ces produits de luxe, quoi, finalement.
Les savoirs locaux, c'est en passant des journées entières où on mange ensemble et on discute.
Exactement.
Et où, tu, en une journée, tu as une phrase à sortir et à mettre en exergue parce que c'est la conclusion d'années et d'années d'expérience.
Oui, tout à fait. Ça me demande une patience incroyable. Et connaissance de la langue.
Ah non, on peut faire traduire ça. C'est...
Ok.
On n'a pas parlé de transmission, et c'est super important parce que quand on parle de savoir. Je veux dire, c'est un peu ça le problème. On parle d'apiculture, mais OK, il y a la transmission formelle avec des guides, des trucs pédagogiques, etc. Il y a aussi la transmission, ce savoir qui existe chez les apiculteurs. Il a bien été transmis.
C'est l'échange.
Il y a un outil pédagogique qui est mis en place maintenant sur Madagascar, qu'on retrouve maintenant dans toutes les régions. Les ONG ont eu la bonne idée de mettre en place des ruches écoles. Ça veut dire que dès le moment où une activité agricole qui est mise en place, ils sensibilisent d'abord les écoles, les niveaux élémentaires, après au niveau du collège, et puis même les familles sont initiées à l'apiculture familiale. C'est-à-dire qu'il y a un échange de l'ancien, comme le dit Hervé. C'est souvent à Madagascar, on a vu, c'est des personnes qui sont à la retraite, qui ont une activité qui leur permet d'avoir un deuxième complément, un deuxième revenu. Et au-delà de ça, ils sont toujours motivés et intéressés pour retransmettre. Donc les ONG ont eu l'idée, devant cette frustration de non-passation d'une connaissance et d'un savoir-faire, de mettre en place des ruches écoles.
Non, parce que bon, moi je me suis intéressé aussi aux gamins, quoi, aux enfants, d'essayer de voir un peu comment les enfants découvrent le monde, comment ces enfants marocains, ces enfants là du Sud, découvrent le monde des abeilles. Je me suis dit, je vais vraiment repartir de de l'âge le plus petit pour voir comment ils découvrent l'abeille. Et là, on a découvert un truc saisissant, vraiment une intelligence extraordinaire au niveau de la transmission, j'allais dire implicite, c'est que les gamins, à partir de 5 ans, 5-6 ans, ils commencent à, entre guillemets, domestiquer une petite abeille solitaire qu'on appelle Brasiz là-bas. C'est un personnage comique. C'est une petite abeille solitaire qui stocke son pollen dans des coquilles d'escargot. Et ces coquilles d'escargot avec ce pollen, c'est le roux-doudou des enfants. Ils adorent, c'est le bonbon des enfants du monde rural. Ils se l'échangent, ils le stockent, etc., etc. Et ce qui est génial, c'est que de temps en temps, on croise des gamins bergers, des enfants bergers, enfin des enfants donc, qui ont la charge de conduire les troupeaux de la famille. Hein. Et donc, ils ont dans des boîtes d'allumettes, ils transportent en fait leur brasis et ils les déplacent vers les endroits où ils font leur parcours, quoi. Et donc, ils essaient de les rassembler, etc. Donc, ils essaient de faire comme leur papa. Et bon, bien évidemment, ça ne marche pas. Et il y a plein d'histoires. Et donc, du coup, ce personnage est devenu une sorte de personnage comique. On raconte plein d'histoires sur Brasiz. On dit que Brasiz, par exemple, il transforme les fleurs en propriété privée, alors que les abeilles butinent, etc. Il est toujours dégoûté parce qu'à chaque fois, l'abeille lui pique son truc. Et il est fainéant, alors que l'abeille est solitaire, il ne supporte pas la collectivité, etc., etc. Et donc, il y a plein d'histoires. Et en fait, on s'est rendu compte que ce petit personnage, cette petite abeille solitaire, dessinait un peu le portrait en creux de l'abeille apicole. C'est-à-dire, en gros, c'est l'inverse. Alors, il faut imaginer pour des gamins, justement, qui ont affaire à cette petite espèce-là, qui ont essayé de le domestiquer, nanani, nanana, qui ont toute cette tradition orale qui accompagne donc, la pratique de cette petite abeille, c'est une passerelle directe, finalement, vers le savoir apicole, quoi. C'est une première initiation au savoir apicole. Alors, quoi faire ? On sait bien, parce qu'on parle d'enfants, il y a un gamin qui braille. Quoi faire avec ça, avec ce type de matériaux ? Parce que quand vous parlez de ça à des ONG ou à des politiques de développement, etc., ils vous disent mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Alors qu'en fait, c'est très important. On a décidé de faire un truc avec nos collègues marocains, c'est qu'on va faire une bande dessinée. On va utiliser ce personnage, un peu comme on a eu Maya l'abeille, sauf que bon, pas trop de choses pédagogiques derrière Maya l'abeille.
Nous, on a fait une BD de vers de terre.
Ah ouais ?
Ah ouais, ouais.
Ah bah voilà. Et la BD, c'est génial, parce que c'est un support absolument incroyable. Et cette BD, elle va être construite à partir de la tradition orale. Hein, et donc voilà, donc ça fait une histoire complètement absolument incroyable.
Mais c'est intéressant, parce que c'est un autre mode de sensibilité.
C'est exactement. Ouais. C'est-à-dire, on part d'une icône locale, culturelle, pour sensibiliser.
Et du coup, cette BD, donc, c'est un projet qui est encore en cours. Et de quoi elle parle ? Donc, elle sensibilise les enfants à l'importance de l'abeille pour leur environnement et leur vie.
Oui, mais aussi tous les problèmes liés à la disparition de la population des abeilles, au varroa, à la diversité des types de ruches. Finalement, cette BD, on va la vendre. J'espère qu'elle n'intéressera pas que les Marocains, parce que beaucoup de gens vont être intéressés. Par exemple, moi je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, cette partie-là. Je l'ai réécrit tout ça à partir de la tradition orale berbère, hein, on est d'accord. Il y a à un moment donné, Brasiz, il vient de naître, il sort de sa coquille, et il est tout seul, quoi. Et il voit un essaim d'abeilles, et il hallucine de voir des abeilles groupées, donc il essaye de les rattraper. Il devient copain avec une des retardataires de l'essaim. Il devient copain et tout. Puis un matin, il se réveille, le petit Brasiz, et il sort de sa coquille. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des sauterelles, hein, un essaim de sauterelles arriver, ce qui arrive fréquemment dans ces régions-là. Et donc, il se protège dans le trou d'un arbre, etc. Le fléau passé, il sort, et là, tout d'un coup, il voit des grands oiseaux rouges dans le ciel. Et l'abeille vient le voir, et lui dit, non, mais si tu restes là, t'es mort, c'est bien plus dangereux que les sauterelles. En fait, c'est des avions, c'est les hommes qui viennent, qui pulvérisent les sauterelles avec des pesticides. C'est un cas grave dans ces régions-là. Et donc, c'est sur cette occasion que l'abeille invite donc le petit Brasiz à venir se réfugier dans la ruche. Et donc là, à ce moment-là, le Brasiz découvre qu'est-ce que c'est qu'une ruche, etc., etc. Enfin bon, voilà. Bien sûr, c'est très anthropocentrique parce qu'on est obligé. Quoi, je veux dire.
Notre émission se termine, merci de l'avoir suivi. En conclusion, protégeons autant l'abeille mellifère, mais aussi tous les autres insectes pollinisateurs et bien sûr les vers de terre. N'oublions pas ceux et celles qui travaillent avec les abeilles en France et dans les pays du Sud, au Maroc, à Madagascar et ailleurs. N'oublions pas de protéger, de faire vivre et de transmettre les savoirs apicoles et naturalistes traditionnels et locaux. Un grand merci à Isabelle Emonetti, Romain Simnel, Thierry Guénin et Hervé Garouel. Toutes les infos sur les associations Happy Flore d'Ève et Quartier d'Orange et sur les projets sur les abeilles au Maroc seront mises en ligne sur la page de Zoom Écologie. À bientôt !